France Musique. France Musique, l'expérimental, François Bonnet.
Bienvenue à toutes et à tous pour cette expérimentale, une expérimentale en forme de documentaire, un documentaire consacré à la compositrice Brunhilde Ferrari à travers un entretien réalisé expressément pour l'émission. Brunhilde Ferrari, un portrait, un documentaire d'Alexandre Bazin.
Claude Debussy, première rhapsodie, 1910. Brunhilde Ferrari.
Le premier souvenir, c'était la clarinette que jouait mon père. Et que j'aimais beaucoup, et j'aimais beaucoup quand il répétait, parce qu'il jouait à l'orchestre. Alors il répétait un peu à la maison, il exerçait. Et puis, d'ailleurs, je crois que c'est l'instrument d'orchestre qui m'est resté le plus cher. Mon père peignait, mais il composait. Il composait surtout le soir et la nuit, parce qu'il était tranquille et il pouvait se concentrer mieux. Donc c'est comme ça qu'il a travaillé jusqu'à la fin de sa vie, composer et peindre. Et c'était une activité qui était en première ligne dans la maison. J'avais commencé bien sûr à jouer du piano, mais ça n'a rien donné finalement, puisque c'est mon père qui m'a donné les leçons. Il s'énervait beaucoup après moi. Et puis je ne pouvais pas répéter parce que le piano était tout le temps occupé. Parce qu'en dehors des compositions, la peinture, et mon père avait besoin de ce piano, donc il l'occupait. Donc j'étais mauvaise élève et j'ai abandonné le piano. Et après, adolescente, j'ai été introduite dans d'autres musiques, évidemment. Et je crois que ce qui m'avait le plus impressionnée comme enregistrement que j'ai pu entendre, c'était Bartok. Et mon père aimait beaucoup aussi. Et je trouvais que ça me touchait beaucoup, personnellement, ça me touchait parce que c'était à la fois familier et étrange dans sa façon d'aborder la musique populaire aussi. Et voilà, c'était Bartok. Après, il y en a eu beaucoup d'autres.
Béla Bartok, 6 danses au rythme bulgare 1, 1938-1939. Brunhilde Ferrari.
J'avais passé mon examen à l'Alliance française auparavant, l'année d'avant, et j'avais rencontré un jeune homme qui m'était très sympathique et qui, c'était un vernissage le premier soir de mon séjour ici, parce que j'étais avec des amis peintres allemands. Et il y avait ce jeune homme qui s'appelait Gérard Patrice. Et je le voyais assez souvent parce qu'il avait un atelier de lithographie et de sérigraphie qui était très intéressant parce que là aussi, il se côtoyait plein de peintres les plus importants à cette époque qui se trouvaient à Paris. Et quand j'ai eu mon diplôme, il m'avait dit « Viens donc avec moi en Corse passer des vacances. » Alors j'étais très impressionnée par ça et très joyeuse. Et je disais ça à ma mère et puis, pas question. Tu dois rentrer à la maison, mais tu peux inviter quelqu'un si tu as envie pour le carnaval. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai invité Patrice. Seulement, Patrice n'est pas venu seul. Il avait un ami avec lui qu'on ne connaissait pas. Mais lui, il se disait que c'était intéressant de faire rencontrer un compositeur à un autre compositeur, à mon père. Voilà, comme ça. C'est comme ça qu'on s'est connus au carnaval.
Luc Ferrari, études aux accidents, 1958. Brunhilde Ferrari.
Luc était venu à Aix-la-Chapelle me voir et puis il a proposé à mes parents, enfin à nous, de faire de la musique concrète. Et c'était très drôle parce qu'on n'avait pas idée de ce que c'était. Il nous a expliqué et il y avait donc les magnétophones de mon père qui pouvaient servir et on a commencé à faire des bruits, à parler, à chanter, à n'importe quoi. Et c'était drôle. C'était un moment d'amusement. Mais c'était attirant quand même, parce que Luc prenait ça au sérieux. Alors que nous, on rigolait plutôt. Hein. Et il le prenait au sérieux et puis il nous a fait écouter des enregistrements. Donc là, j'étais convaincue que c'était vraiment une nouvelle voix que je ne connaissais pas. De toutes les façons, C'était fabuleux ce début de mon séjour en France, à Paris. C'était toutes ces personnes qui se côtoyaient au service de la recherche. Xenakis, Parmigiani, tellement, François Bell plus tard. C'était excitant, parce que tout le monde découvrait un nouveau monde. Et c'était... J'avais l'impression de vivre un moment exceptionnel dans la vie culturelle.
Luc Ferrari, Totologos 1, 1961.
J'ai commencé le piano tard à jouer, à prendre vraiment du plaisir à Paris. Mais alors c'était le piano de Luc que j'avais joué et il en avait besoin aussi. Jusqu'au moment où il m'a acheté un piano électrique qui était formidable. Je pouvais travailler complètement sans son, juste avec des casques. Dès que je l'ai eu, j'ai arrêté de composer. Puis je ne m'en suis plus occupée de ce piano-là. Non, c'était sans piano que je voulais.
Luc Ferrari, J'ai été coupé, 1960-1969. Brunhilde Ferrari, Conte sentimental numéro 7.
Conte sentimental numéro 7.
1991.
À toi.
Sentimentale Erzählung Nummer 7. Es gibt hier nichts zu sehen.
Ça, c'est le titre?
Oui.
Ah, c'est bien. Il n'y a rien à voir ici.
Erster Teil.
Première partie. Es gibt nicht.
Es gibt hier nichts zu sehen.
Es gibt hier nicht zu sehen.
Nichts zu sehen.
Nichts zu sehen. De Luc Ferrari et Brunhilde Meyer.
Von Luc Ferrari und Brunhilde Meyer.
Oh, c'était un peu compliqué parce qu'au départ, j'avais fait de Hörspiel des émissions radio avec mon nom de jeune fille. Et après, j'avais mis le double nom. Et après la mort de Luc, j'ai tout simplement laissé Ferrari.
Brunhilde Ferrari.
Je prenais d'abord en charge toute la paperasserie, tout ce qui était organisation, etc. Petit à petit, il avait besoin de ma voix. Il avait envie d'une voix allemande. C'est venu de plus en plus souvent après. Et on a discuté beaucoup, on a enregistré des discussions aussi qu'on avait. C'est comme ça aussi qu'on avait fabriqué des contes sentimentaux où on parlait en bilingue, Luc en français et moi en allemand. Donc c'était plutôt drôle parce que Luc expliquait dans chaque épisode, dont il y avait 11, il expliquait la façon de composer ou de vivre une de ses pièces de musique qui était quelquefois reliée à des aventures assez bizarres. Et voilà. Donc on parlait de ça et on s'amusait. Puis Luc aimait beaucoup s'amuser et il m'a invité à le faire aussi.
Justement, il y avait une absence de causalité et l'école de Schaeffer a...
Denn dabei war die Kausalität abwesend und Schaeffers Schule, der ich angehörte,
à laquelle j'appartenais, voulait se servir des sons,
das konkrete Tonmaterial verwenden,
concret, sans tenir compte de leur origine concrète.
Ohne seinen konkreten Ursprung zu beachten. Also war die Aufgabe, mit konkretem Tonmaterial eine abstrakte Musik zu machen.
Avec la musique concrète, faire une musique abstraite. Et moi, je trouvais que c'était une contradiction.
Aber ich fand, das war ein Widerspruch.
D'autant que Schaeffer, il avait fait des études avec le chemin de fer, avec...
Umso mehr als Schaeffer seine Eisenbahn-Etüde mit völlig anekdotischen Tonaufnahmen gemacht hatte.
Des choses complètement anecdotiques, donc je me sentais.
Und gerade darum hatte ich das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein.
Totalement dans le chemin de l'histoire, hein, de l'histoire.
Brunhilde Ferrari.
Maintenant, je sais que j'avais quand même une façon d'écouter beaucoup plus classique que lui. Il était beaucoup plus imaginatif. Et je trouvais quelquefois que c'était un peu osé, ce qu'il proposait. Alors que maintenant, je ne saurais même plus dire ce que c'était. Mais quelquefois, je ne pouvais pas être tout à fait d'accord. Quelquefois, ça me rendait très triste aussi, ce qu'il faisait. Mais on s'entendait vraiment plutôt très bien. C'était l'activité d'enregistrer. J'étais presque toujours avec lui. C'est pour ça que les enregistrements que j'entends maintenant me touchent toujours beaucoup parce qu'il y avait tout, il y a toujours des images et les souvenirs de ce qui se passait autour de nous et nos actions qui se présentent. Et c'est très souvent un souvenir triste et joyeux en même temps. Donc j'écoutais sa musique, particulièrement la sienne, parce qu'elle était pour moi hors norme. Elle était pour moi comme personne d'autre ne composait. Et sa musique instrumentale à lui aussi m'a beaucoup, beaucoup touchée, émue beaucoup. Par exemple, dans son histoire du plaisir et de la désolation, c'est vraiment ce qu'il voulait exprimer, c'est tout à fait ça. Il avait le plaisir dans la vie, il voulait le plaisir, mais il était toujours quelque part interrompu, cassé, et par que ce soit une guerre, que ce soit un comportement social ou quoi que ce soit.
Alors je suis allé plus loin, vers le ruisseau, je crois. D'ailleurs, il n'y a pas d'eau. Tu vois.
De ressentir aussi ce que son sentiment pouvait être en le composant. Donc, on ne se rencontre pas forcément dans le son, mais il y a quand même un dialogue. Et c'est ce dialogue qui m'intéressait d'avoir avec lui. Et d'emprunter ses sons, un peu, quelquefois, comme hommage, mais c'est surtout comme dialogue. Parce que je mets mes sons à côté, et voilà.
Luc Ferrari, Presque rien numéro 2, Ainsi continue la nuit dans ma tête multiple, 1977.
J'ai contourné un plant de vigne, je me souviens. Et puis, passé par hasard devant ce buisson-là.
Brunilde Ferrari, à propos d'Alvin Lucier.
Sa composition, sa façon de travailler, sa façon d'inventer la fabrication de sons, elle m'a beaucoup étonnée. Mais sa façon de parler aussi était très belle pour moi. On s'était rencontrés à côté de San Francisco dans un colloquium entre musiciens et il nous parlait, il nous donnait aussi des exemples de ce qu'il a pu vivre, de ce qu'il a pu entendre. Par exemple, cette remarque de Cage, qui disait que dans ce silence complet, qu'est-ce que vous entendez? Et on disait rien. Enfin, la personne disait, je n'entends rien. Et ici, il y a toujours quelque chose à entendre. Alors, il y avait le cœur. Et ça m'a aussi aidé à ouvrir mes oreilles encore plus. Je continue toujours d'ailleurs à être très 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 curieuse de tous les bruits et de ce qui peut m'entourer, écouter ce qui se passe autour de moi.
Dieses Silence-Stück beobachtet wirklich die Klänge um uns herum. Wenn wir 4 Minuten 33 Sekunden hindurch nichts tun.
Sie zwingen dazu zu lauschen.
Nein, sie sind nicht.
Brunhild Ferrari, ein Klangwellenkünstler, 2001, avec Alvin Lucier.
No, you're talking, you're talking.
See? Nein, sie sprechen ja, sie sprechen.
You know, that's a beautiful piece of his because you hear the environmental sounds around.
Ich habe den Kühlschrank gehört.
Ja.
It's the washing machine.
Wissen Sie, Silence, das ist ein sehr schönes Stück von John Cage, weil man die Umgebungsgeräusche wirklich wahrnimmt.
So, anyway.
and the machine is stopped.
Yeah.
Oh, I was wondering, what do you hear when things are supposedly silent?
Ich denke, dieses Stück handelt nicht davon, was in uns vorgeht, sondern von dem, was um uns herum vorgeht. Es gibt immer Geräusche.
Within myself? Well, I don't. I'm thinking that piece is not about within yourself. It's what's going on around you.
Plötzlich wird die Stille so interessant hier.
See, suddenly the silence becomes so interesting.
Yeah, sure.
Because we bring that
That's
up.
Because of John Cage.
Natürlich. Das haben wir John Cage zu verdanken.
You know those gardens and those Zen gardens and that just have the raked sand and a few stones.
Wissen Sie, wie die Zen-Gärten, die sich ständig verändern.
They change all the time by the time of day and the sun and the moon and those environmental things.
Der Sand und die Steine verändern sich im Sonnenlicht.
You look at something very simple and then when the sun comes out, it has a different quality and then at night it is moonlight.
Sie betrachten etwas sehr Einfaches. Und wenn die Sonne herauskommt oder das Mondlicht darauf scheint,
das ist genauso in Jirasi. Wenn Sie beim Fortschreiten des Tages durchs Fenster sehen, ändern sich die Farben und das Unsichtbare wird sichtbar.
It makes visible the invisible, the way that it bounces off of the physical environment.
Well,
now it's time to go to bed, right? It must be 9:15 already.
I'm just kidding. Way past Elvis' bedtime.
I'm just kidding.
Aber jetzt ist es Zeit, zu Bett zu gehen, nicht wahr? Schon 9:15 Uhr.
Brunhild Ferrari, N'importe quoi, 1985.
Ich denke, für sich ganz allein. Hm? ganz beklommen. Das ist mir in dieser Nacht, das mir bewegt. Ständig und ständig in Bewegung zu sein. Mein Kopf ist ganz leer. Kein Gedanke kommt auf. Dann ständig dieser Wind. Also ist das Südwind. Ist das Südwind? Südwest.
C'est ce qui m'a toujours aussi attirée, c'est de, justement de ne pas prévoir ce qu'on allait enregistrer, mais justement d'aller à la recherche du son et le surprendre. Généralement, quand on partait en voyage, en vacances, le magnétophone était toujours là, le micro était prêt à enregistrer. Donc, on s'arrêtait à un endroit et puis on entendait une activité, des clous qu'on plantait dans le bois. Et voilà, on s'arrêtait là. Et Luc le transformait après. Transformer, jouir de ce son et le transformer qu'ils deviennent autre chose, et c'est comme mélanger les couleurs. Oui, ils ne transformaient pas parce qu'il y avait déjà assez de bruit autour et assez d'explications.
Un n'importe quoi qui se trouve dans un moment de solitude, qui se trouve entre, qui peut remplir une attente par l'écoute de ce qui se passe autour et qui donne la voix à la rêverie sans but, comme le rêve les yeux ouverts, où la tête s'accroche parfois à des successions de considérations du moment. N'importe quoi représente pour moi des réactions spontanées avant que la critique et le bon sens se mettent à l'œuvre. La pensée comme passive avant qu'elle ne soit formulée par les paroles.
Brunhilde Ferrari.
Je l'ai appelé n'importe quoi. Et c'était n'importe quoi.
Sans parole.
Seulement, dernièrement, il y a 2 ans, un cinéaste a voulu me rencontrer et il a voulu savoir, écouter des choses, etc. Je lui parlais comme ça, entre autres, de n'importe quoi, parce que je disais un peu n'importe quoi aussi. Et ça l'intéressait beaucoup, ce n'importe quoi. Il a fait un film, un petit film sur moi, et qu'il appelait n'importe quoi. Et c'est vrai que quand j'ai écouté la bande à nouveau, je trouvais que c'était pas si mauvais que ça. Parce que c'était vraiment des réflexions sur le moment, spontanées, qui me venaient et dont je parlais, et qui étaient souvent cachées par une vague, par un autre bruit extérieur que je laissais vivre de la même façon que ce que je disais. Oui, j'avoue que j'avais oublié complètement cette façon de faire. Et
alors, qu'entendre
ça ne m'a pas déplu.
Ces bruits qu'on n'écoute pas, qui sont là, et qui sont là comme des signaux, comme une horloge qui bat l'heure, comme un subconscient. L'écoute, c'est une action portée sur des bruits nouveaux, inconnus, et généralement accompagnée de l'objectif d'identification ou de comparaison avec ce que nous connaissons déjà.
C'est David Grouse qui me l'a présenté et qui me disait que Luc avait envie de faire quelque chose sur moi ou avec moi. Et ils sont venus tous les deux et avec Luc, on a beaucoup visité, beaucoup écouté, beaucoup regardé les images, les peintures, etc., les dessins. Et puis, il a eu l'idée de m'enregistrer. Et je l'ai emmené aux arènes de Lutèce, qui était un lieu que Luc fréquentait beaucoup quand il était petit. Et il m'a donné le micro et l'appareil enregistreur. Il m'a laissé tout seul au milieu. Et je devais enregistrer, voilà. Et c'était assez amusant. Ça m'a fait très plaisir aussi. Voilà, on est tombé sur n'importe quoi qui l'a séduit. Je ne sais pas si c'est le titre ou si c'est mon explication qui l'a séduit, je ne sais pas. En tout cas, je l'ai laissé et, parce que ça m'intéressait personnellement aussi. Je ne lui ai pas posé la question pourquoi.
Ferrari.
Vincent Royer, je l'avais connu avec Luc. Il a joué des pièces de lui. Et après la mort de Luc, comme il savait que je faisais du son, il est venu me demander s'il pouvait utiliser telle ou telle musique de Luc pour composer dessus, pour improviser dessus. Alors je l'ai préparé des bandes et effectivement il a improvisé dessus sur son alto d'une façon très bien. Moi je les avais connus, lui et son copain pianiste, quand ils ont enregistré Didascalie. Et comme ça, on s'est fréquenté un peu plus et je suis allée le voir aussi en Allemagne. On s'est vu assez souvent à cette époque-là.
Luc Ferrari, Brunhilde Ferrari et Vincent Royer, éphémère, 2012.
Christophe Heymann a vécu à Aix-la-Chapelle. Et je ne le connaissais pas du tout. C'était des amis qui le recherchaient et qui aimaient beaucoup le voir et me l'ont présenté. Voilà, c'est comme ça qu'on s'était vu la première fois. Et il m'a... On a discuté ensemble, il est venu me visiter comme ça. Et on a discuté, il a écouté des sons que j'avais faits dans une usine désaffectée. Un jour, il y avait un vent terrible et qui faisait claquer des portes qui ne fermaient plus très bien. Les fenêtres aussi, c'était assez impressionnant comme bruit et comme agressivité. Et il avait envie de s'ajouter à cette musique que j'en avais faite. Et dans la deuxième partie de cette pièce, il a improvisé, donc avec des tout petits instruments très jolis, des petites clochettes. Voilà. Et après, on a joué ensemble.
Brunhilde Ferrari et Christophe Heymann, Stürmische Ruhe, 2011-2014. Brunhilde Ferrari.
David Grubbs, on l'avait vu la première fois à Chicago, quand Luc était invité pour faire un concert d'improvisation. Il est venu visiter quelqu'un à l'intérieur de cet ensemble. Et puis il est resté jouer avec nous. Avec eux, moi je ne jouais pas. Et comme ça, on s'est rencontrés, on a discuté ensemble, on se sentait bien ensemble. Et on a continué à faire d'autres projets. Puis il avait demandé s'il pouvait éditer une pièce de Luc. Il avait un label. Et ça nous a fait très très plaisir, à moi aussi. Là, il a donc édité plusieurs disques. Jim O'Rourke, on l'avait vu avec Luc après un concert à la maison de la radio, je crois. Et quelqu'un nous a présenté et il était un peu intimidé et il semblait très heureux. Il était grand admirateur de Luc. Et je suis très touchée qu'il veuille bien travailler avec moi de temps en temps. Je ne pouvais pas l'imaginer. L'intermédiaire était Noda Shigenori, qui nous avait invités tous les deux, je crois. Je ne me souviens plus exactement. Et je lui ai demandé, donc, à ce moment-là, s'il voulait bien improviser sur le piano englouti, surtout vers la fin. Et il disait oui. Et j'étais heureuse, bien sûr. Je ne m'y attendais pas. Et est-ce qu'on a fait autre chose ensemble? Non. Jusqu'au concert de ma carte blanche. Très simplement, je leur avais envoyé ma bande de mixage sur laquelle je leur demandais d'enregistrer, s'ils voulaient bien. Et c'est ça qui était l'idée au départ. Parce que Eiko m'avait dit qu'elle aimerait beaucoup travailler avec moi, jouer avec moi. Ce que j'aimais beaucoup aussi, j'aimais beaucoup sa musique qu'elle avait faite pour un film. Donc j'étais fière, très fière et très contente de travailler avec elle, à l'idée de travailler avec elle. Et finalement, il allait de soi que Jim s'y ajoute et c'était un duo très beau.
Brunil Ferrari, Jim O'Rourke et Eiko Ishibashi, Pareidolia 2025. Thank you.
c'est le prix presque rien. Et oui, c'est ça, bien sûr, c'est le même nom. L'idée, ben, forcément, quand j'ai eu l'idée de fonder l'association, on m'a dit, ben, oui, bien sûr, c'est forcément presque rien. Ben oui, évidemment. C'était David Gis qui me disait que forcément, ça devait être le titre. Du coup, je l'ai invité, je lui ai demandé de devenir le président de l'association. Le prix presque rien, c'était l'idée de laisser participer des jeunes musiciens ou artistes aux sons que Luc a pu enregistrer, les sons non composés encore. Ils ont travaillé avec, ils ont fait des compositions qui sont parfois très étonnantes. C'est émouvant, hein? C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais je me suis dit, je le dois à Luc aussi. Faut pas le laisser en dehors de la vie. Il faut que ces jeunes musiciens ou ces jeunes acteurs, ces jeunes artistes, s'ils avaient envie de rencontrer Luc, c'était une bonne idée. Et pour faire vivre l'œuvre de Luc, continuer à le faire vivre, ça me plaisait cette idée, le faire vivre avec d'autres.
Brunil Ferrari, Errant Ear, 2024.
Je crois que tous les sons m'intéressent. Et si j'avais encore le courage, il faut que je le retrouve. Il faut que je retrouve mon micro aussi, qui est en réparation depuis longtemps. Donc, qui est celui de Luc, évidemment. Tous les jours, je fais de nouvelles découvertes de sons et je me dis, ah, ça serait bien de l'enregistrer, ah, ça serait bien de le faire. Et je ne le fais pas par paresse aussi, par fatigue, installer l'enregistreur, le micro, etc. Et je suis devenue timide, très timide, vis-à-vis de ces instruments. Mais bon, je les respecte beaucoup.
C'est sur cet extrait de Errant Ear, paru en 2025, que l'on doit à Brunil Ferrari que l'expérimental s'achève ce soir. L'expérimental est une émission proposée par l'INA GRM et réalisée par Alexandre Bazin. Thank you.
France Musique.